Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir une nouvelle page dans notre Bible. Et nous allons donner une suite, parce que c'est une suite à un récit, à un commentaire précédent que nous avons vu il y a quelques jours, qui était véritablement, le titre était celui-ci, « J'ai vaincu le monde ». Et nous voyons que là, nous allons reprendre ce texte, et je vous invite tout simplement à lire deux passages dans notre Bible. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et au chapitre 14, et au verset 17. Alors, nous avons donc tourné quelques pages, et il est dit ceci. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors, ce dernier personnage bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous poursuivons. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de tes souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Retenons bien l'expression « rien pour moi » parce que ce sera le sujet, le cœur même de notre méditation. Un peu plus loin, au chapitre 15, verset 1er, il est dit ceci. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Nous voyons qu'il y a là, en effet, à travers tous ces personnages qui sont cités, que j'ai donné donc les noms, Abraham, Lot, le roi de Sodome, Melchisédek, etc., nous avons quelque chose qui est intéressant parce que nous allons relancer notre récit que nous avons entrepris déjà. Et nous voyons, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner aussi une autre référence, c'est dans Jean, chapitre chapitre 16 et au verset 33, et nous voyons que c'est Jésus qui parle à ses disciples, c'est un conseil qui est donné, un encouragement qui est donné à tous les chrétiens dans tous les temps. Jésus dit ceci, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, et prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous voyons qu'il y a encouragement à recevoir la paix qui est en Jésus, nous avertissant que nous aurons des tribulations, des épreuves, toutes sortes de choses, pas dans n'importe quelle condition, mais dans le monde dans lequel nous vivons. Mais prenez courage, Jésus nous assure la victoire parce qu'il dit « mais j'ai vaincu le monde ». Alors, ceci dit, nous allons finalement donner un rappel, en quelque sorte, tout simplement nous souvenir grossièrement, en résumé, de ce qui a été dit la fois précédente. D'abord, Abraham va revenir avec ses alliés, entre autres le roi de Sodome. Il va revenir victorieux de ce conflit régional, c'est des guerres tribales, on peut dire ça. Et pourtant, rien n'est réglé, car il se présente un risque aussi subtil que dangereux encore. C'est le roi de Sodome. Et après la brutalité de la guerre, apparaît l'entreprise de séduction du roi de Sodome l'allié donc d'Abraham, je ne vais pas être très compliqué, mais c'est pour mettre un petit peu les personnages en place. Eh bien, nous voyons qu'Abraham, qui illustre cette proposition d'alliance amicale, qui est une alliance antinaturelle, et ça peut nous parler pour nous, pour chacun d'entre nous, entre le croyant, la différence qu'il y a entre le croyant, l'homme de foi, et le païen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans une de ses épîtres, 2 Corinthiens chapitre 6, il dira, il donnera cet avertissement à l'Église d'aujourd'hui, tout autant aujourd'hui, eh bien il dit ceci, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou les démons, si vous voulez. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Alors, c'est intéressant de prendre en compte, finalement, eh bien, cette, on pourrait dire, cette articulation de pensée, parce que ça mérite, en effet, eh bien, quelques précisions. Nous avons besoin de prendre garde, de bien prendre garde, à ne pas aimer à la fois Dieu et son royaume, et le monde opposé à Dieu. Et c'est pourquoi il nous a donné cette injonction partout dans le Nouveau Testament pour ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous vivons aujourd'hui avec les situations avec lesquelles nous sommes confrontés de fuir l'idolâtrie. Alors, je vais reprendre un peu les choses. Abraham revient victorieux avec son neveu Lot qui libère de sa captivité dans eh bien, cette aventure guerrière. Mais aussitôt, nous apercevons que Lot retourne à Sodome parce que véritablement Lot n'a rien compris eh bien, à la leçon que Dieu lui a donnée à travers eh bien, cette captivité qu'il a vécue. En même temps, Abraham délivre son allié qui est le roi de Sodome et son peuple avec lui. Mais la victoire se change, et c'est là aussi il faut véritablement prêter une grande attention. Cette victoire va se changer par le truchement de ce roi de Sodome en subtile tentation. Vous pourrez lire finalement le verset 17, parce que les choses sont bien consignées pour que nous puissions bien comprendre. On sait que le roi de Sodome s'approche eh bien, d'Abraham pour l'honorer, pour le remercier, le couvrir des présents en témoignage de sa reconnaissance pour l'avoir délivré. Après avoir résisté au caractère brutal des combats, des batailles qui se sont livrées entre ces différentes tribus, voilà le monde sous l'image du roi de Sodome qui propose, sous des aspects séducteurs, mais nous vous apercevons que très vite Abraham comprend que les offres de son allié, le roi de Sodome, l'allié du moment, sont faites et sont plus dangereuses parce qu'elles sont mortelles sur le plan spirituel et moral qu'une hostilité ouverte. Alors, nous voyons que là, il y a comme chez l'homme de foi, qui est Abraham, Abraham doit rester sur ses gardes et redoubler de vigilance car l'ennemi, l'allié, vient à lui déguiser pour proposer ses faveurs, ses honneurs, ses cadeaux empoisonnés. Et c'est pour ça qu'il est dit ceci, nous voyons, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Alors nous verrons tout à l'heure qu'il y a véritablement une nuance entre la valeur d'une personne et la valeur des richesses. Le lieu de transaction flouté, je dis bien, n'est pas sans signification. Parce que nous voyons qu'ils vont se rencontrer dans la vallée de Chavé, ou la vallée du roi, c'est la même chose, vallée ou lieu bas, ou lieu en bas. Seul moyen, rester en bas, seul moyen de demeurer après toute la victoire dans l'humilité, sans nous prendre au sérieux, où la victoire peut nous tourner la tête et nous glorifier, et pour rester debout et modeste. C'est vrai que quelquefois, lorsqu'il y a des grandes réussites, des grands succès, des grandes victoires, même le chrétien, un homme comme Abraham, par exemple, peut perdre la tête parce que finalement, la victoire de Dieu, c'est avant tout peut-être qu'il se l'approprie pour lui-même et il tombe dans l'orgueil, tout simplement. Quand attention et nous avons affaire véritablement là d'être vigilants. Le monde s'intéresse à nos succès et nous consent quelques faveurs. Il est bon d'avoir à nos côtés, près de nous, à l'heure de la tentation, celui avec un grand C, celui qui peut nous préserver de la chute. Vous pouvez aussi, pour suivre, prendre et relire le verset 18 au chapitre finalement précédent. Il s'agit de Melchisédek, et qui est appelé aussi le roi de Salem. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage mystérieux, le roi de Salem. Si nous faisons le rapprochement, Salem, comme en arabe salam, ça veut dire paix. Et nous nous apercevons que la ville qui est la ville de Dieu, s'appelle Jérusalem. Et ça, c'est important, c'est la ville de paix, c'est la capitale de paix. Bien que, à travers tous les siècles, c'était pas la paix qui a régné à Jérusalem, mais c'était finalement, tout simplement les guerres, les conflits, tout ce qu'il peut y avoir d'épouvantable dans ce monde, et la haine, on peut dire. Et roi de Salem, c'est finalement l'emblème de la paix et de la justice. Et cette rencontre, indispensable, de sorte que la bénédiction nous rende forte, nous rend fort, nous affranchisse, et nous pouvons à ce titre-là, si nous veillons à ne pas succomber à la tentation, échapper au roi de Sodome, et nous allons dire qui est le roi de Sodome, c'est-à-dire au monde. Oui, roi de Sodome, ça équivaut au monde, et dans la mentalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que nous vivons depuis toujours, et sa pertinente, pernicieuse, tout simplement dépendance. Nous allons aller un peu plus loin. Nous avons besoin d'observer ceci. Ce n'est pas quand l'ennemi fait la guerre à Abraham que le danger est le plus redoutable, mais quand l'allié déguisé sous la forme du roi de Sodome, parce que c'était semblablement un ami d'Abraham, l'allié qui est l'image du roi de Sodome, donc qui est l'image du monde, l'allié déguisé en faux ami, s'approche pour nous séduire. En d'autres termes, quand le roi de Sodome tente de circonvenir Abraham pour le remercier, le monde sera toujours plus dangereux pour le croyant quand le tentateur, et je rappelle à dessein le roi de Sodome, le monde, veut pactiser, c'est-à-dire faire alliance avec nous, lorsqu'il nous persécute. Il est plus dangereux lorsqu'il nous tente que lorsqu'il nous persécute et nous fait la guerre. Abraham avait besoin de discernement, et il a eu besoin de discernement, et de communion avec son Dieu, dont la bénédiction de Dieu est supérieure à celle prodiguée par le roi de Sodome. Alors Melchisédek, un autre personnage va intervenir, et vous souvenez que c'est le roi de paix, Melchisédek apporte avec lui, pour Abraham, du pain et du vin, qu'il offre à ce dernier pour le restaurer et le rafraîchir après les combats de la bataille. On trouve dans ce geste l'anticipation de la royauté victorieuse et le sacrifice futur de Christ à la croix. Jésus, roi de paix et de justice, emblème du repas de la Sainte Cène, selon ce qui nous est dit dans Jean chapitre 6, et vous pourrez relire le chapitre 6, parce que c'est véritablement, en quelque sorte, l'explication de ce qu'est, dans l'Évangile, la nécessité de partager le repas de Sainte Cène, donc la communion. On l'a appelé le pain d'effort. Cette communion du pain et du vin, c'est le pain d'effort, car si nous voulons résister et triompher, descendons dans la vallée basse, qui nous avons appelée Chavet tout à l'heure, et d'y recueillir la bénédiction préparée pour vaincre. Oui, nous pouvons avoir la victoire, et cette victoire, cette préparation, le pain et le vin, lorsque cela s'opère dans la foi, c'est véritablement la foi qui nous donne de triompher. Alors le roi de Sodome, c'est-à-dire le monde, n'aura plus aucun attrait à nous opposer, la foi sera toujours plus forte, et nous pouvons dire « rien pour moi », pas autre chose que notre besoin de Dieu, Alors ce n'est pas le besoin de richesse, comme cela a été proposé, nous allons le revoir d'ici quelques instants, mais c'est véritablement notre communion avec Dieu à travers ce qu'il nous propose pour nous rafraîchir, pour nous donner de triompher de tout ce qui peut nous tenter et nous faire pécher. Mais attendant, lorsque nous attendons tout de Dieu, mais c'est la seule chose qui prime pour nous, c'est la gloire seulement de Dieu. « Pour toi, mon Seigneur et mon Dieu, dira Thomas. » Et nous voyons que ça, c'est quelque chose d'important d'avoir ce raisonnement. Il y a une source de perturbation chez les chrétiens, c'est que nous attendons tout des deux côtés, la bénédiction divine et celle du monde. Alors les convoitises, les rivalités et les envies, l'insatisfaction, le mécontentement, la peur de perdre ce que nous avons reçu et de voir s'échapper ce que nous possédons. Et le résultat, est véritablement les conflits que nous pouvons avoir, les dualités que nous pouvons avoir, toutes sortes de choses dans notre conscience qui nous perturbent grandement. Attention à la manière dont nous descendons dans la vallée du roi, c'est-à-dire la vallée de Chavé, nous l'avons dit, là où Dieu nous présente le vin et le pain. Dans la Bible, il est mentionné la vallée du roi, et nous avons ce souvenir dans 2 Samuel, parce que c'est écrit au chapitre 18, on y voit un autre personnage qui n'a rien à voir avec les personnages que nous avons cités, mais on y voit là Absalom, rebelle et orgueilleux, qui est fils de David, qui va s'ériger, quand il va descendre dans la vallée du roi, il va s'ériger une statue à sa gloire, et à ne pas imiter et faire du pain et du vin un objet de malédiction, c'est-à-dire la Sainte Cène. Nous avons besoin de faire attention dans ce que nous faisons, ce que nous prenons, ce que nous disons, ce que nous réalisons. Et nous avons encore cette parole qui revient, que nous avons besoin de nous en souvenir après les victoires, après les batailles, après les tentations, toutes sortes de choses. Abraham dira ceci, et ça c'est sa devise, « Rien pour moi, dit Abraham, mais tout pour la gloire de Dieu. Que chacun s'éprouve soi-même », nous dira aussi un texte du Nouveau Testament. Nous avons besoin, devant le pain et le vin, devant la Sainte Cène, de nous éprouver nous-mêmes. Et si nous avons péché, si nous avons commis des erreurs, la seule chose qu'il nous reste à faire, et la chose la plus simple, c'est de demander pardon, tout simplement. Parce que Dieu a promis le pardon à chaque fois que nous faisons des fautes. Et si nous le prenons dans la foi, Dieu nous pardonne. Nous voyons que ce roi de paix, ce roi de justice providentiel, Melchisédek, qui est l'image de Christ, ça c'est véritablement le dévoilement du mystère de ce personnage, la bénédiction descend sur Abraham. Alors, Abraham donne à Melchisédek la dîme de tout. Et c'est vrai que nous avons toujours besoin de réaliser que Dieu nous a tout donné. Et nous avons besoin, nous, à notre tour, de lui redonner ses dons, ne serait-ce qu'à commencer par la reconnaissance, ne serait-ce que par commencer par la foi, la confiance que nous mettons en lui. Par-delà tout ce qu'il peut y avoir, offrir à Dieu. Heureux ceux qui saisissent la valeur de ce principe spirituel, recevoir de Dieu, puis redonner. Et peut-être à travers, nos semblables, redonner à nos semblables. Ce geste en reconnaissance d'un cœur désintéressé qui fait de Dieu le donateur unique de toutes bonnes choses, savoir les partager pour qu'ils se multiplient encore et toujours. Voilà le secret, voilà cette semence que nous avons besoin de reporter, parce que la semence va devenir une plante, elle va devenir peut-être un arbre, elle va porter des fleurs, elle va porter une graine qui va renouveler. Parce que ça c'est l'emblème de la nouvelle naissance. De l'enrichissement, voilà le secret de l'enrichissement qui n'est suivi d'aucun chagrin, nous dit aussi un autre texte de la Bible. Rien pour moi, nous dit Abraham. La devise que tout chrétien devrait avoir, c'est rien pour moi, tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre, et cela implique qu'il est et dispose de tout l'univers. Et s'il dispose de tout l'univers, c'est qu'il est immensément d'une manière impensable, que véritablement il est riche. Alors, qu'ai-je à faire avec le monde, c'est-à-dire le roi de Sodome, qui me propose que des faveurs éphémères, et qui peut, eh bien là, finalement, peut-il m'offrir quelque chose de plus que je n'ai déjà en mon Dieu ? Nous lui dit cette parole, « Tout est en vous, tout est à vous, car vous avez pleinement tout en Jésus-Christ, mon Dieu, eh bien, pourvoira à tous vos besoins, nous dit l'Épître aux Philippiens. » Le monde et ses fascinations, eh bien, ajoutera-t-il quelque chose de plus à ma joie, à ma paix, à mon bien, à mes biens, à mon bonheur, que ne me donne, eh bien, mon Dieu. Voilà le vainqueur du monde qui me fait dire rien pour moi. Le monde est le grand instrument de la convoitise entre les mains du roi séduction que l'on a appelé, eh bien, le roi de Sodome, qui cherche à affaiblir ou peut-être même à aliéner notre confiance et notre affection pour Dieu seul. Abraham a bien choisi et Dieu lui répond. Et je vais terminer à travers quelques passages. Il est dit ceci. Abraham, Dieu dira à Abraham, parce que tu as été vainqueur du monde, tu as été vainqueur de la tentation, tu n'as pas écouté la voix subtile et mensongère du roi de Sodome. Abraham, ne crains pas, dira Dieu, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il n'y a que les vainqueurs qui entendent ces promesses divines. Dieu dit, avec moi, tu ne manqueras jamais de rien. Tu as su refuser le monde et ses finalement fascinations. Rien pour moi, mais toi, mais pour moi, ton Dieu, tu, mon Dieu, tu me posséderas, dit Dieu, et tous mes trésors infinis sont à toi. David dit cette parole, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, ou dans, c'est la traduction du rabbinat français, tu es mon maître, mon seul maître, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Alors, nous pouvons conclure par cette parole, Lot, vaincu, connaît l'humiliation. Abraham, vainqueur, vit la plénitude et l'abondance. Le roi de Sodome, qui est l'image du monde, je le rappelle une dernière fois, cherche ses victimes crédules. Et nous avons finalement cette pensée qui nous revient quand, en effet, Jésus sera, eh bien là, dans la tentation au désert pendant 40 jours. Le diable, le roi de Sodome, si vous voulez, le roi du monde, le monde lui-même, il dira ceci à Jésus pour le tenter, « Si tu m'adores et que tu te prosternes devant toi, je te donnerai tous ces trésors. » Et nous voyons que Jésus a répondu, la parole de Dieu dit, et nous voyons que c'est encore en écho, eh bien, qu'il n'y aura rien pour moi. Une autre voix répond, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors c'est vrai que c'est un texte qui n'est pas peut-être très simple dans sa compréhension, mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons les éléments à la suite de cette première partie que nous avons vue récemment, hein, qui est tout simplement « J'ai vaincu le monde », eh bien là, nous pouvons donner le même titre si nous voulons. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons cet enseignement, cette parole, cette réflexion, méditation, pour que nous puissions être des Abrahams et nous puissions avoir cette devise dans notre vie, « Rien pour moi, tout pour la gloire de Dieu ». Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et en effet, eh bien, merci pour votre écoute attentive. Et nous nous retrouverons d'ici quelques jours eh bien, pour de nouvelles aventures autour de la parole de Dieu et son explication. Merci et à bientôt.